Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Créé par François Allais, ce podcast va à la rencontre d'entrepreneurs au parcours inspirant. Ils ont une histoire unique, ont pris des risques pour réussir et ont franchi un cap dans leur business grâce à des rencontres.
Bonjour à tous, c'est François Allais et bienvenue sur Serial Entrepreneur. Pour ce 28e épisode, j'ai reçu à distance Aurore Abekassi, fondatrice de FOMO, une agence de conseil événementiel créée en 2019. Dans cet épisode, on parle notamment de son parcours avant d'entreprendre, de comment a-t-elle créé FOMO, comment sont arrivés les premiers clients, quel est le process de fabrication des événements, des exemples d'événements organisés par l'agence, quel impact le Covid a-t-il sur son business, quelle a été la stratégie menée pour rebondir dans un secteur autant impacté que l'événementiel, et quels sont les objectifs des prochains mois pour FOMO. Merci Aurore pour cet échange, j'espère que l'épisode vous plaira. Si tu apprécies ce que je fais, n'oublie pas de laisser une note sur Apple Podcast, de t'abonner à la chaîne YouTube de Serial Entrepreneur. Quant à moi, je vous souhaite une excellente écoute et à la semaine prochaine pour le dernier épisode de la série estivale qui sera intégralement en vidéo sur YouTube. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Aurore Abekassi. Salut Aurore.
Bonjour François. Bonjour à tous.
Tu es la fondatrice, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu es la fondatrice et CEO de l'agence FOMO. Donc, c'est tout récent, ça a été créé en 2019. C'est une agence événementielle, mais pas que. On aura l'occasion d'en savoir plus dans quelques minutes. FOMO, c'est en peu de temps plus d'une centaine de clients qui vous font déjà confiance, dont la BNP Paribas, Airbnb ou encore Comet. Moi, à chaque fois, à chaque début de podcast, ce qui va m'intéresser, c'est le parcours de l'entrepreneur. Et j'aimerais savoir quel a été ton parcours avant d'entreprendre.
Oui, bien sûr, avec plaisir. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous à distance. Mon parcours, en quelques mots, j'ai été à HEC pendant quelques années en business school. Et à l'issue de cette école de commerce, j'ai été en conseil en stratégie. D'abord, j'ai passé un an et demi chez LEK Consulting et ensuite 4 ans chez Bain & Company. Rapidement, LEK Consulting, c'était du conseil en stratégie très axé private equity. Et du coup, j'ai fait un petit switch vers Bain & Company pour avoir accès à plus d'entreprises qu'on appelle corporate, pour avoir plus d'échanges avec plusieurs types d'entreprises et aussi plusieurs pays, parce que l'avantage de Bain, c'est aussi que c'est très, très international et que donc on peut être amené à rencontrer des personnes de tout type d'environnement, d'entreprises, de pays. Voilà.
Très bien. Et qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre? Qu'est-ce qui a fait que tu as entrepris?
Alors, c'est une bonne question. J'ai mis beaucoup de temps à le faire parce qu'en fait, ça fait depuis que je suis au lycée que je me dis j'ai envie de monter une boîte. Bon, après, c'est familial hein, chez moi. Donc, j'ai été biberonnée à ça. On m'a expliqué que c'était vraiment ça ou rien quand j'étais petite.
Tu as un environnement d'entrepreneur du coup autour de toi?
Ouais, un environnement d'entrepreneur. Et d'un autre côté, donc on me poussait, on me disait qu'il y avait que ça de vrai. Et d'un autre côté, on me disait… faut absolument que tu ailles dans une grande école, faut absolument que tu apprennes plein de choses, que tu ailles faire du conseil en strat parce que tu sais rien vendre, tu sais rien faire, donc tu vas pas pouvoir créer quoi que ce soit. Donc c'était un peu ce paradoxe qui était à la fois faut être très entreprenant, très entrepreneurial, se lancer, et d'un autre côté peut-être la peur de en fait c'est hyper dur de se lancer quand on sort d'école, donc mieux vaut s'armer au mieux. Et en fait, ça a été le meilleur conseil que j'ai eu, parce que aujourd'hui, si FOMO réussit à grandir aussi vite, c'est en grande partie parce que Bain m'a appris beaucoup beaucoup de choses que je réutilise au quotidien.
Ok, donc ce qui a fait que tu as entrepris, c'est que c'était le bon moment pour après tes différentes expériences. Oui.
Pour répondre à ta question, ce qui a fait que j'ai entrepris, c'est que au bout de 5 ans de conseil en stratégie, je me suis dit bon, il est peut-être temps de faire quelque chose qui me plaît vraiment, et donc de revenir à mes vrais besoins, à mes vraies envies, et c'était l'entrepreneuriat depuis pas mal d'années. Et là, le mur et la page blanche est arrivée, parce que je voulais monter quelque chose, mais je savais pas quoi. Et très honnêtement, pour tous ceux qui veulent monter une boîte, Il n'y a pas de stress à ça. Moi, tout le monde me disait « Ah, mais c'est bizarre, tu n'as pas une passion, tu n'as pas envie de monter un SaaS. Moi, j'ai une passion sur la moquette, donc j'ai monté un truc sur la moquette. Moi, j'ai une passion brownie, donc je monte un truc de brownie. » Et moi, j'étais « Bah non, je n'ai pas de passion, je suis hyper mal à l'aise. » Et du coup, je me suis dit « Il faut que je me trouve une passion. » Et donc, il y a un an et demi, je me dis « Ok, là, il est temps de trouver une passion, je vais monter ma boîte. » Franchement, j'ai fait mon temps en conseil en strat, je m'étais donné quelques années et ça y est, je les ai faites. J'ai appris énormément de choses. Et là, je me dis, bon, bah, je vais trouver une passion en rencontrant plein de gens. Peut-être qu'eux, ils vont me transmettre une passion. Donc, je me suis dit, OK, à partir de maintenant, un café par jour avec une personne différente par jour. Et puis, on va voir, peut-être que ça va m'inspirer. C'est notamment en écoutant des podcasts, d'ailleurs, que j'avais entendu ce petit conseil. Et donc, bon, ça ne m'a pas énormément inspirée, mais en revanche, c'était top parce que je rencontrais des personnes d'environnement hyper variés. Et le problème que j'avais, moi, chez Bain, c'est que, en fait, j'avais des œillères. C'était génial, j'avais appris plein de choses, mais j'étais dans un environnement très particulier qui est le conseil en stratégie où y a pas mal d'idées préconçues où tout le monde qui sort de conseil en stratégie va aller ou bien faire du private equity ou bien dans un grand groupe ou bien dans une start-up ou s'il monte sa boîte, ça va être dans un environnement très tech, ce qu'on appelle très scalable, très rentable, où il y aura des investisseurs, etc. Et en revanche, monter une PME, ce n'est vraiment pas ce qu'on nous recommande et ce n'est pas dans l'habitus. Et du coup, j'étais un peu bloquée là-dedans en me disant, mais en fait, ce n'est pas ça que j'ai envie de faire. Enfin, c'est génial de monter une boîte où il y a plein d'investisseurs et où elle vaut, je ne sais pas, quel valot. Mais ce n'est pas ça, moi, l'ADN qu'on m'a transmis. Moi, l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat de PME, où il y a 1 000 euros de capital social au maximum et où on se fait avec ses petites mains et ça grandit. Et du coup, j'étais en rupture entre ce qu'on m'avait inculqué et ce milieu Bain, investisseur très, très financier, etc. Et du coup, avec mes 6 mois de café, donc j'ai rencontré plein de gens. Je me suis dit, en fait, tous ces gens qui font des trucs un peu business related, très investisseur, etc., ça me plaît pas. Et du coup, je vais faire du coaching. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui avaient fait Switch Collectif. C'est du coaching en collectif. Et je les remercie parce que c'est un super coaching où l'idée, c'est on a une approche pour ce coaching de communication non violente. Et ce que ça veut dire, c'est on va revenir à soi, on va revenir à ses besoins et on va arrêter avec « il faut faire ci, il faut faire ça ». C'est bien d'avoir de l'ambition, c'est bien de gagner de l'argent. Et on va se dire, en fait, OK, tout ça, ça m'a amené à plein, plein, plein de belles choses. Et aujourd'hui, si je suis arrivée là, c'est grâce à toutes ces croyances que j'avais. Mais maintenant, elles sont un peu limitantes. Donc, faisons tabula rasa et demandons-nous, en fait, qu'est-ce que vraiment j'aime ? Qu'est-ce que j'ai comme besoin ? Qu'est-ce que je rêvais de faire quand j'étais petite ? Ça a l'air un peu candide comme ça, mais ça n'est pas. Moi, ça m'a aidé à me poser des questions et à avoir des personnes autour de moi, donc pendant ce coaching, qui me disait, là, franchement, Aurore, le SaaS, ça n'a pas l'air d'être ton truc. Lever des fonds, faire une énorme boîte tech, ça n'a pas l'air d'être ton truc parce que moi, j'ai besoin de maîtriser le produit. Et c'est ce dont je me suis rendu compte. Et je me suis dit, en fait, moi, ce que j'aime, c'est créer des expériences, vivre des expériences très intenses, créer des moments de convivialité, rassembler. Et voilà. Et donc, au moins, je suis arrivée à ça. Bon, après, je vous raconterai la suite. Mais c'est ça qui a été le déclencheur où je me suis dit, OK, vas-y. J'avais pas les épaules au début. Je me disais, je me sens pas de le faire. Et je me sens pas de le faire, notamment parce qu'on me propose de monter un SaaS et que je me sens pas de monter un SaaS. Mais grâce à ce coaching, je me suis dit, en fait, si, tu te sens de le faire, mais un truc qui te parle. Et ce qui me parle, c'est justement le milieu PME, le milieu un peu plus, comment dire, opérationnel, physique. Pas dans la tech, pas dans le SaaS, mais que voilà, autour de la convivialité des expériences.
Ouais, l'idée c'est vraiment de trouver ce qui a du sens pour soi en fait, hein, quand on crée une boîte et pas juste parce que en ce moment potentiellement il y a beaucoup d'entrepreneurs dans les startups justement dans le domaine tech, dans le domaine SaaS, mais vraiment trouver quelque chose qui a du sens pour soi et pas dupliquer quelque chose qui ne nous appartient pas au fond de nous quoi.
Ouais, exactement, mais après. Enfin, moi, c'était ça aussi où je me disais, mais je suis bizarre. Pourquoi ça a du sens pour des gens de monter une boîte tech ? Moi, j'ai quand même tout pour faire pareil qu'eux. C'est aussi que, oui, voilà, il faut se demander. Peut-être qu'il y a des gens, en fait, gagner de l'argent, ça a du sens pour eux. Juste se dire, je vais faire une boîte qui va scaler, qui va faire des millions, des milliards, ça a du sens pour moi. Et en fait, moi, c'est ça que j'ai compris un jour, c'est que je me suis dit, en fait, il y a des gens qui sont drivés par l'argent. Et donc, parce qu'ils sont drivés par l'argent, ils sont d'accord de faire des boîtes qui vont juste générer énormément de cash. Et bah, moi, mon driver, c'était pas ça. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui… Enfin, il y a des gens qui sont passionnés de ça, c'est tout. Mais il y a des gens aussi qui ne sont pas passionnés de ça, mais qui sont passionnés d'autres choses. Et ça, le fait de monter une énorme boîte qui va beaucoup, enfin, où il y aura beaucoup d'investisseurs, qui va beaucoup lever et tout, va répondre à leurs enjeux aussi.
C'est clair. C'est clair. Je suis totalement, totalement d'accord. Et du coup, tu crées l'année dernière FOMO. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est?
Oui, bien sûr. Alors, en avant-première, je vous dis un petit secret. À la rentrée, on va changer de nom parce que on a décidé de se premiumiser un peu parce que on a eu des clients plus premium. Donc là, on a eu que t'as pas cité parce que tu le savais pas. On a eu LVMH. On a fait un événement pour Dior, un événement mondial il y a 3 jours. On est super contents et du coup, dans cette tendance de, en fait, on se positionne un peu sur des événements beaucoup plus luxe que ce qu'on attendait, beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus premium. Et on ajoute par-dessus une couche de conseils parce que bon. Finalement, on ne se refait pas et je viens du milieu du conseil en strat et donc j'ai mis une couche de conseil en strat, mais je vous en dirai plus dans FOMO. Et du coup, tout ça mis ensemble fait que bah, finalement, on va devenir Velvet Cartel à la rentrée. Voilà. Mais bon, tout ça pour dire que FOMO, donc, ou Velvet Cartel, ce que c'est en quelques mots une agence de conseil en événementiel. Je précise bien conseil parce que nous, notre façon d'aborder l'événementiel, c'est pas… on fait des événements parce que on se dit que c'est sympa et que ça anime l'interne, ça anime les clients. Non, en fait, on se dit qu'on fait des événements parce qu'on a une approche consulting qui est « Ok, faisons un diagnostic. Quel est le problème ? Quelles sont les problématiques à résoudre ?» Souvent, dans une entreprise, c'est des problématiques RH ou bien c'est des problématiques clients. Et donc, dans les problématiques RH, ça va être l'acquisition des talents, la rétention des collaborateurs, plein de problématiques de ce type-là, les silos et le fait que personne ne se parle, voilà. Et les problématiques clients, ça va plus être l'animation de la communauté et l'acquisition des nouveaux clients. Et du coup, on se dit, OK, faisons ensemble un diagnostic. Quelles sont vos problématiques? Qu'est-ce qu'on veut résoudre? Et on va vous proposer un accompagnement qui est un accompagnement événementiel et qui peut prendre plusieurs aspects. Et ensuite, ce qui est aussi important à retenir, c'est que derrière, comme on a une approche conseil, on se dit « faisons une mesure d'impact ». On a une approche très héroïste de l'événementiel où on se dit « on veut sortir des KPI ». Ce n'est pas parce que c'est difficile de quantifier, d'avoir un retour sur investissement en événementiel qu'on ne peut pas le faire. Faisons comme on peut. On essaye de construire des modèles et on essaye de voir quel est le retour qu'on a sur cet événement. Et nous, notre approche, c'est… Ou bien, on vous fait ce que je viens de dire, donc diagnostic, accompagnement, mesure d'impact sur un événement en particulier. Ou bien, on peut le faire sur du plus long terme en disant, chère entreprise, on va t'accompagner sur 3 à 6 mois, enfin en fonction du besoin, et on va te faire cette étude sur du coup 3 à 6 mois. On va te faire un diagnostic beaucoup plus profond, beaucoup plus développé. Pareil, un accompagnement, à toi de voir si tu veux le faire avec nous. Mais en tout cas, on te dit ce qu'on pense est bon pour résoudre les problématiques. Et ensuite, on fait une mesure d'impact, du coup, beaucoup plus poussée avec un vrai modèle où on va pouvoir vraiment quantifier. Voilà, okay. Donc ça, c'est FOMO. Et j'ajoute quelque chose, si ça te va. J'ajoute deux choses, en fait. La première, c'est que nous, notre point de vue, c'est que la meilleure façon d'avoir de l'impact, c'est en créant des expériences immersives. Je pourrais revenir sur ce que c'est que des expériences immersives. Ça veut dire qu'en gros, c'est vraiment des univers qu'on va créer pour que vraiment vous soyez plonger dans un monde comme si vous étiez télétransporté, l'espace d'une soirée, l'espace d'un séminaire ou autre. Et comme ça, c'est très, très dense. Ça va vous générer plein d'émotions et c'est ça qui va faire que vous allez vous en souvenir. Et puis moi, c'est pour ça finalement que j'ai voulu créer cette boîte. C'est parce que je voulais marquer les gens par l'émotion au travers des expériences. Et la deuxième chose que je veux rajouter, c'est que pendant le Covid, on a eu une très grosse opportunité. Ça a été le virtuel. Le lendemain de l'annonce du confinement, et on y reviendra après parce que j'ai rencontré plein de gens, mais en gros, on s'est dit, OK, il y a une opportunité, c'est le virtuel, essayons de s'y mettre. Et en fait, contre toute attente, ça a fait un gros buzz parce que ça a super bien marché. Et c'est notamment pour ça qu'LVMH nous a contactés il y a quelques mois, et aussi des GAFA et plein de boîtes, parce qu'on est la référence, on est devenu la référence événement virtuel pour les entreprises. Donc ça, c'est une super opportunité.
Super. Bon, on aura l'occasion d'en parler dans quelques minutes. FOMO, tu l'as créé toute seule ou tu avais un ou plusieurs associés?
Je l'ai monté toute seule, donc il y a un an, en me disant ça fait déjà des mois que je cherche ce que je veux faire. Et là est venu le moment où je me suis dit, est-ce que je cherche un associé ou est-ce que j'y vais? Et je me suis dit, bon, j'y vais parce que là, j'en peux plus d'attendre. Et puis, on verra si je trouve un associé.
Très bien.
Donc, je cherche un peu encore, en fait. Mais voilà.
Et comment sont arrivés les premiers clients, du coup?
Donc, notre premier client, ça a été Airbnb. On a eu beaucoup de chance. Comment c'est arrivé? Si je dois vous donner un conseil, il ne faut rien lâcher. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai été éduquée. Alors, parfois, ça me rend un peu trop posée ou culottée dans la vie. C'est ce qui m'a le plus aidée pour FOMO, en revanche, parce que finalement, quand tu essayes de passer par une porte, qu'on te dit non, tu passes par la fenêtre, qu'on te dit non, tu passes par la petite fenêtre. Enfin bref, c'est exactement ce qui s'est passé pour Airbnb. Airbnb, en gros, j'avais un ami de Bain qui était parti chez Airbnb travailler à la stratégie. Je lui ai dit, je viens de monter ma boîte, tu ne veux pas me mettre en contact avec la personne qui gère les events? Il m'a regardé en me disant, il était super sympa et donc il me dit, ouais, je crois trop en toi et tout, mais enfin, j'avais jamais monté d'event quand même. Et surtout, je venais pas du tout de ce milieu-là. Donc, il m'a dit, je vais t'aider. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Toutes les trois semaines, je l'ai rappelé en lui disant, tu m'as dit que tu vas m'aider, donne-moi le contact de cette personne. Oui, je vais te la donner. Et puis, au bout de 3, 4, 5 mois, il a fini par, je sais pas, je lui ai mis le couteau sous la gorge ou pas, mais j'ai fini par avoir ce contact. Et il nous a fait l'introduction. Et clairement, le bouche à oreille, c'est génial parce que c'est vraiment ce qui marche le mieux. Et ensuite, c'était à moi de jouer, quoi, avec cette personne chez Airbnb qui était en plus très sympathique et qui nous a dit, on a d'autres agences sur le coup. Par ailleurs, on a très peu de budget, donc il est aussi possible qu'on le fasse nous-mêmes. Mais montrez-nous ce que vous savez faire. Et là, il a fallu faire beaucoup de bluff quand même, faut le dire. Ouais. Le premier client, en plus, c'est Airbnb. Ils sont habitués à… Enfin, il m'avait dit, donc nous, la dernière soirée qu'on a fait, c'était une soirée mille et une nuits. On s'est retrouvés dans un désert en plein Paris. On avait des tentes, il y avait des cracheurs de feu. Enfin, voilà, vous imaginez le truc. Et donc, on a dû dire, vous inquiétez pas, on gère hyper bien, on a l'habitude, on va vous faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qu'on a fait avec nos moyens. Et ils étaient hyper contents. On a eu de témoignages vraiment géniaux du type… le fondateur du bureau de Paris qui dit « ça fait 8 ans que je fais des soirées Noël chez Airbnb et du coup, celle-ci, c'est ma 8e et c'est de loin la meilleure. » Voilà, bon, on a eu des super témoignages, donc ça nous a aussi propulsé.
Super. Bon, beaucoup de persévérance du coup pour en arriver là.
Ouais, c'est ce qu'il faut.
Et du coup, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'événements que vous avez organisés ces 12 derniers mois?
Ouais, bien sûr. Alors, donc maintenant, on peut se dire qu'on a autant d'événements physiques que d'événements virtuels. Donc, je vais commencer par les événements physiques.
On parlera des événements virtuels sur la partie Covid de l'épisode.
Ouais. Donc, sur les événements physiques, donc on a commencé par Airbnb. C'était une soirée de Noël pour vous situer un peu. Donc, ils nous ont dit, on est en période pré-IPO, donc peu de budget. Sachant que nos amis de Airbnb sont quand même habitués aux mille et une nuits et on doit rester dans nos locaux. Donc, essayons de trouver quelque chose de sympa, mais qu'on puisse faire dans nos locaux, qui puisse transfigurer les locaux. Et du coup, on s'est dit, on va recréer un Airbnb dans les locaux d'Airbnb. On s'est dit, on va conceptualiser leur bureau en créant un espace chambre, un espace cuisine, un espace salon, etc., comme si on était dans une maison. Et le thème global, c'était le Noël Hygge. Donc, Hygge, ça veut dire… tout ce qui est Noël du Danemark, suédois, tout ce qui est nordique, où il y a un thème un peu boisé, végétaux, très cocooning, fausse neige, etc. Donc, nous, on a bâti autour de ce thème-là et on a recréé des salles. Parce qu'en fait, Airbnb, comme c'est une boîte mondiale et notamment dirigée aux US, ils ne voulaient pas que ce soit trop Christmas, quoi. Ils ne voulaient pas que ce soit l'arbre de Noël classique, Père Noël et tout. Et c'est pour ça qu'on a pris un peu… On s'est dit, on va travailler autour de ce Noël Hygge où il y a d'un côté les marchés de Noël comme à Strasbourg avec le vin chaud, les gaufres chaudes, toutes les confiseries un peu chaudes et sympas. Du côté cocooning, on va avoir plein d'espaces avec de la fausse fourrure blanche, plein de boiseries dans le coin chambre. Enfin voilà, on a fait plein de coins. Il y avait aussi un DJ. Donc ça, c'était assez immersif comme univers où on se croyait un peu au Danemark. Un autre événement sympa qu'on a fait, c'était un événement de début d'année pour BNP Paribas. Eux, leur problématique, Bon, je ne vous ai pas parlé vraiment de la problématique Airbnb, mais enfin, c'était surtout, on n'a pas de budget, on est en contexte pré-IPO, faites-nous quelque chose de dingue. Ensuite, la problématique BNP Paribas, c'était pour une équipe, on est plein de sous-équipes qui ne nous parlons pas. Et donc, il y a des problèmes de silos parce qu'il y a des personnes de différents âges, des personnes qui travaillent sur des sujets différents. Et en même temps, ils ont aussi plein de sujets en commun. Et donc, c'est dommage s'il y a énormément de doublons. C'est-à-dire que Fanny ne va pas parler à Michel et ils ne savent pas qu'ils travaillent sur la même chose alors qu'ils ont beaucoup de choses à se dire. Donc, il faut vraiment qu'on règle ce problème de silos. Et du coup, on leur a… Donc, ça, c'était la première problématique. La deuxième problématique, c'était… on est aux Tuileries et nos collaborateurs ne veulent pas prendre le métro, ils ne veulent pas marcher plus de 10 minutes. Donc, on a envie de se dépayser, mais il faut rester à 10 minutes des Tuileries. Donc, voilà, il faut trouver une solution pour ça. Du coup, on leur a proposé une soirée forêt mystique, rue des Archives, dans l'hôtel particulier de Guénégo, qui a l'avantage d'être complètement dépaysant. Vous rentrez, vous êtes dans un univers où il y a des animaux naturalisés, il y a énormément de verdure, c'est un hôtel particulier magnifique. Et puis, c'est à 10 minutes des Tuileries, donc c'est très pratique. Et donc, à l'intérieur de ça, donc on a recréé une forêt mystique avec beaucoup de végétaux, de lumière. On a distribué des masques à chacun dans l'idée que c'était un peu aléatoire, des masques forêt. Avec des chouettes, des renards, plein de choses, des ours. Et comme c'était aléatoire, après, les gens se sont regroupés par type et se sont mis à échanger entre eux et de façon un peu fortuite. Et c'était un peu c'était l'objectif. Okay. Donc ça, c'était chouette. C'était scénographiquement.
J'ai plusieurs questions. Quand tu crées un événement comme ça, c'est quoi le process, on va dire, de fabrication de cette expérience? Et combien il y a de personnes aussi chez FOMO, notamment pour créer cet événement?
Ouais. Ça, c'était les premiers events. Donc, on a fait avec peu de monde, mais on était à chaque fois 3, 4, 5. Mmh. Pour créer des événements, en général, c'est pour 100, 150 personnes, ce qu'on a fait là en début d'année. Ou en fin d'année dernière. Le process, tu veux dire une fois qu'on a signé avec le client?
Exactement. Comment vous trouvez la bonne idée, le bon contact, le bon lieu, enfin, c'est.
Ouais, nous notre, enfin, une de nos, je sais pas si c'est nos forces, mais en tout cas c'est ce sur quoi on travaille, c'est les lieux. C'est très important pour nous d'aller trouver des lieux éphémères, des lieux un peu cachés, des lieux qui n'acceptent pas les agences, de faire des partenariats avec des maisons du type Big Mama, avec Paris Society, avec des hôtels particuliers qui donc ne veulent pas normalement accepter des agences parce qu'on en a un peu marre, et c'est l'objectif de FOMO, de casser un peu les codes classiques du pavillon Dauphine qui est vraiment très bien, mais qui est quand même un peu répétitif. Donc, on passe énormément de temps sur la veille, disons à peu près 30% de notre temps, c'est sur de la veille de lieu et d'expérience qu'on pourrait faire vivre. Donc ça, on a une base. En fait, notre objectif, c'est d'avoir une base de lieu. L'objectif, c'est aussi de ne pas réinventer la roue et de se dire, faisons des partenariats avec des lieux exclusifs, des lieux éphémères. Souvent, les lieux éphémères, en fait, ils sont quand même tenus par des maisons qui ont l'habitude de spotter des lieux éphémères. Donc finalement, ça peut se faire. De se dire, faisons des partenariats avec quelques maisons qu'on apprécie et qui sont extraordinaires et avec qui on va retravailler parce qu'on ne va pas réinventer la roue à chaque fois. Et puis, de toute façon, des lieux extraordinaires qui sortent du commun, qui sont éphémères, etc., dans Paris, il n'y en a pas non plus des tonnes. Donc ça, voilà, on se construit une base. Et puis, donc dans le processus, on va d'abord se poser avec le directeur artistique en se disant qu'est-ce qu'on va créer comme concept. Et on va parler avec plusieurs personnes. Donc, il y a le directeur artistique, il y a potentiellement des personnes avec qui on travaille qui sont assez bonnes en créa. On va leur demander leur avis. On va aussi demander l'avis au lieu pour voir ce qui irait bien dans le lieu. Ça va vachement dépendre de où on se situe. Et puis, on va faire trois propositions au client, trois lieux, trois concepts. Et puis, on va aller visiter potentiellement les lieux avec le client. Et on lui dit, si tu veux des nouveaux concepts, on valide quand même le fait qu'on travaille ensemble parce qu'on va pas. Enfin, on s'est un peu fait avoir, nous, au début, à faire visiter, à faire plein de concepts. Et puis, à la fin, on nous dit, c'était top, mais en fait, non, merci. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir poser des limites. C'est très dur au début parce qu'en plus, moi, je venais pas de l'événementiel. Évidemment, moi, j'avais jamais fait ça, j'avais jamais vendu quoi que ce soit. Je me suis fait beaucoup avoir. Enfin, beaucoup, tout est relatif parce que j'ai vite posé les limites, mais trop à mon goût. Et c'est assez frustrant. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, je vais poser des limites. On visite trois lieux. Puis si ça ne te va pas, bah, ou bien tu me signes le fait qu'on travaille ensemble, ou bien on arrête. Mais je ne vais pas éternellement travailler, quoi. Pour rien. Donc, c'est ça le process. Ça, c'est le début. Et puis, une fois qu'il a signé, puisqu'on ne lui donne pas tout non plus, ça, c'est un autre type. Voilà, on ne va pas faire un concept hyper, hyper chiadé alors qu'on n'est même pas sûr de travailler ensemble. Sinon, on y passe des heures. Et donc, voilà, c'est aussi avec nos prestataires. Hein. On se dit, pour tel ou tel événement, ça pourrait être pas mal de travailler avec tel prestataire. Donc, on travaille ensemble et on se dit, OK, objectif, comme diraient nos chers amis du conseil, 80-20. Donc, on met 20% d'énergie et on sort 80% du truc. Et donc là, on a des concepts quand même sympas qu'on peut présenter. On échange avec le client, puis on en sélectionne un lieu, un concept. Et puis ensuite, bah là, on affine quel est le niveau de traiteur, quel est le niveau d'animation. On propose plein de choses au début, tout en restant… Enfin, voilà, on n'est pas des marchands de tapis non plus. Donc, on essaye de comprendre quel est le besoin et quel est le budget. Et puis, petit à petit, voilà, on itère et on essaye de comprendre au maximum le besoin du client, qu'est-ce qu'il recherche pour lui proposer les activités qui correspondent.
OK. On va passer sur la partie confinement et post-confinement. Comment s'est passé le confinement d'un point de vue business ?
Bah, plutôt bien. En fait, ça s'est bien passé parce que en termes de visibilité, ça a été une super opportunité pour nous. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a des boîtes de dingue, vraiment. Mais au bout, enfin, si je m'étais dit il y a un an que LVMH allait me contacter pour une raison ou pour une autre. Et en plus, ils sont allés sur notre site. Ils nous ont dit, bon, ça, c'est pas bien, mais ils nous ont dit, sur votre site, on comprend pas comment on vous contacte. Bon, du coup, on a changé de site. Mais du coup, ils sont quand même allés sur Messenger. Ils sont allés sur Facebook nous contacter et nous dire, on a vu que vous aviez fait un webinaire sur les événements virtuels. On veut absolument faire ça avec vous. Quand même, l'opportunité de dingue, quoi. Donc, voilà, pour nous, le Covid, ça a été une opportunité. Bon, au début, ça a été dur. Hein. Moi, j'ai jamais autant bossé et pourtant, je viens de Bain. Ça a été une opportunité parce que on a pu faire des événements virtuels, essayer de créer des expériences vraiment très travaillées autour de ça, et finalement on a été les seuls à le faire. Et évidemment que, enfin, si les gens me disent ah mais du coup t'as trop de chance, t'as plein d'entreprises qui t'ont appelé, qui t'ont demandé des événements virtuels, mais pas du tout. Enfin, j'ai essayé d'être Apple là sur ce coup-là. Je ne suis pas Apple, mais j'ai essayé de créer un besoin. J'ai appelé les gens et je leur ai dit, vous croyez pas que vous avez un besoin d'événements virtuels? Vous voyez bien là que les gens ne se parlent pas. La machine à café, vous en pensez quoi? Elle n'existe plus. Vous ne voudriez pas qu'on vous crée une machine à café virtuelle? Et on a fait tout ça. Et donc, on a co-construit avec le client et puis avec des partenaires aussi qui étaient… parce que moi, je suis très business, mais je ne suis pas non plus très, très créa. Donc, je me suis aussi beaucoup aidée de partenaires hyper, hyper créa qui baignent dans ces environnements où ils savent quoi faire, quoi.
Ok, parce que d'un point de vue au niveau du secteur, de l'événementiel, qui a quand même été, je pense, un des secteurs les plus impactés pendant cette crise qui n'est pas terminée d'ailleurs, la stratégie du coup, ça a été de créer des événements virtuels. Qu'est-ce que tu retiens de cette période du coup de confinement ?
Ce que je retiens, c'est qu'il faut, c'est banal, hein, mais il faut saisir des opportunités. Il faut, en fait, ce que je retiens, c'est qu'il faut être agile. Moi, on m'a bassinée chez Bain, il faut être agile et tout, je ne comprenais pas trop. En plus, je voyais des vidéos absurdes. Enfin, concrètement, ce que ça veut dire, c'est en fait, on teste. Test and learn. Il faut essayer vraiment physiquement. C'est dur, hein. Il faut se jeter à l'eau, en fait. Il faut se dire, bah, en fait, je vais créer cet événement virtuel. Et puis, si ça ne marche pas, eh bah, je dirai à mon client que je suis vraiment désolée et que je lui offre un autre événement à la rentrée. Ce n'est pas grave. Les gens savent, hein, c'est une start-up. Donc, après, oui, effectivement, si vous êtes une énorme boîte, c'est plus compliqué d'essayer. Mais même, enfin, les clients sont hyper preneurs d'innovation, de créativité. Et c'est ce qu'on a fait. Et on leur a dit, bah, évidemment, on ne leur a pas dit, ah bah tiens, tu sais quoi, tu vas être notre cobaye. Là, on n'a jamais fait ça, mais c'est génial, on va essayer avec toi. Non, on leur a dit, on est hyper pro, ne vous inquiétez pas, c'est 50 fois qu'on le fait, ça va être génial. Mais on leur a fourni tout le service et on se disait, s'il y a un problème, et bah, on leur proposera quelque chose d'autre. Et ça, ça a été génial. C'est un, ce que je retiens, c'est opportunité. Parler avec plein de gens, rencontrer des gens, discuter, essayer de sentir la température auprès donc des prestats qui sont vachement plus au courant de ce qui se fait en B2C. Hein. Le B2C, ça inspire énormément. En tout cas, en temps de Covid, c'est vraiment moi ce qui m'a inspiré de voir qu'il y avait plein de soirées qui se passaient en virtuel. Je me suis dit, il y a un truc à faire. Et en fait, on a poussé le truc et on l'a rendu B2B. Mais pourquoi personne ne l'a fait, je ne sais pas. Donc ça, c'est la première.
Là, il y avait aussi des enjeux de survie potentiellement de la boîte. Je ne sais pas Enfin, la boîte est assez jeune. Quand vous avez appris le confinement, enfin, il fallait réagir dans tous les cas et justement et savoir rebondir le plus rapidement possible.
Oui, exactement. Non, mais c'est clair, j'avais pas le choix en fait. J'ai été au pied du mur, hein. Je me suis dit là, enfin, il y a plein de gens qui m'ont dit, ah ouais, t'as vraiment pas de chance, hein. T'as monté ta boîte 3 mois avant le Covid, c'était mal barré.
Ouais, non, mais c'est pas étonnant.
Ouais. Et oui, c'est vrai qu'on était mal barré, mais on a eu de la chance. C'est vraiment ces
C'est
opportunités
ça.
de rencontre.
Vous avez
Et
su
c'est
profiter
aussi.
de la situation pour bah, développer votre business et même aller encore plus loin, puisque bah, ça vous a permis de justement d'avoir de nouveaux clients assez rapidement, quoi.
Ouais, bah, ça, en fait, ça nous a permis d'avoir une grosse différenciation parce que tout ce que j'ai dit sur la stratégie d'expérience immersive, c'est différenciant, mais on le comprend surtout quand on le vit. Je pense qu'on a un service client qui est brain friendly, c'est-à-dire aux petits oignons, mais vraiment au millimètre près. Mais on s'en rend compte quand on fait l'expérience et on se dit, ah ouais, c'est génial. Mais le virtuel, c'est pas, on n'a pas besoin de s'en rendre compte. En fait, on est les seuls parce qu'on est étiqueté comme tel aujourd'hui, on sait faire du virtuel. Et du coup, ouais, c'est clair qu'on n'aurait jamais pensé avoir une opportunité comme ça. Aujourd'hui, on peut taper à n'importe quelle porte qui va nous écouter parce qu'il nous dit, ah bah oui, en effet, vous êtes les seuls à le faire. Alors que j'ai eu un GAFA au téléphone il y a quelques jours, il m'a dit, non mais merci, mais en événement physique. Ne me proposez pas un truc physique. J'ai déjà 10 agences sur le coup et on a l'habitude de travailler avec eux. On ne veut pas de vous. Mais en revanche, sur le virtuel, un événement à 1000 personnes, bah ça, oui, personne ne sait le faire.
Super, c'est cool. Et aujourd'hui, du coup, FOMO en quelques chiffres, est-ce que tu as des chiffres à nous donner en termes de, je sais pas, de nombre de clients, de nombre de salariés, de nombre de chiffres d'affaires potentiellement?
Ouais, alors ça, c'est vrai qu'il y a la politique de dire à chaque fois, il ne faut pas communiquer. Non, mais je pense que c'est très bien d'être transparent et de communiquer. Donc, combien on a de clients aujourd'hui? On en a 30, 40, et puis on en a pas mal dans le pipe là. On en a 15 qui nous parlent de la rentrée de 2021. Donc, c'est super. Et puis, ce qui est top, c'est que voilà, là, on a discuté avec Givenchy, on est en discussion avec UBS, une banque, on est en discussion avec Tikeo, enfin, on est en discussion avec des belles boîtes qui ont beaucoup, beaucoup d'événements aussi. Donc, c'est sympa. Et puis peut-être Vivatech, ça serait génial aussi. Et puis en termes de personnes, donc on est quatre aujourd'hui chez FOMO. L'objectif, c'est d'essayer de grossir vite aussi pour pouvoir répondre de plus en plus aux demandes. Et moi, mon objectif, c'est aussi de réussir à ce qu'on se disait au début. Et finalement, encore une fois, ça me rattrape, hein, de scaler. Parce que tout le monde me dit, en fait, il y a un truc à faire là sur le virtuel, il faut que tu réussisses à scaler. Parce que tu arrives à faire des choses, des petits événements comme ci, comme ça, par-ci, par-là, mais il faudrait réussir à en faire 10 en parallèle. Donc, c'est mon objectif. Donc, voilà, il faut que faut qu'on recrute plus. Et ensuite, en termes de chiffre d'affaires, bon, bah, j'avais pour objectif 1 million la première année. Ça va être difficile avec le Covid parce que malgré tout, même si on a de la demande, les paniers sont quand même réduits. Hein. On était censé faire pour vous donner une idée, on était censé faire un séminaire en Californie. À 15 personnes, un séminaire à Marseille à 100 personnes, ça a été annulé la veille du Covid. C'est quand même pas les mêmes paniers moyens qu'un blind test.
C'est sûr.
Donc voilà. Du coup, on va être en dessous. Si on atteint 500 000, je pense que c'est faisable d'ici la fin de l'année. Ce sera bien parce que on a quand même des beaux projets dans le pipe là à 200 000 euros, bon, qui devraient se faire d'ici la fin
Ok.
d'année. Donc
Et donc, c'est quoi les objectifs futurs pour FOMO? Et puis les prochaines étapes aussi, donc notamment le changement de nom et d'identité, j'imagine, à partir de la rentrée.
Donc là, on construit le logo, on essaye de faire une campagne, de développer une campagne de com qui nous donnerait, en fait, qui du coup serait une belle opportunité pour faire un peu de buzz auprès de nos clients et de nos prospects. Ça, c'est pour la rentrée. Les objectifs, c'est enfin, doubler, tripler de chiffre d'affaires pour l'année prochaine. Doubler, tripler aussi le nombre de clients, à la fois avoir beaucoup plus de projets chez chaque client. Par exemple, je vous donne l'exemple d'Airbnb. Bon, là, ce n'est pas idéal pour Airbnb en ce moment, mais à l'époque, on travaillait avec la partie client, avec plein, plein, plein d'entités où on avait plein de projets organisés. Là, c'est plus compliqué, mais BNP, c'est pareil. L'idée, c'est de se développer au sein des comptes chez qui on a commencé à être et puis de développer de nouveaux clients. Et donc là, notamment sur la partie luxe, je pense que c'est un bon secteur maintenant qu'on a mis le pied chez LVMH. C'est sympa si on peut aller voir plein de maisons au sein du groupe. Voilà. Et puis sur la partie virtuelle, on nous a demandé des événements influenceurs, plusieurs événements à 1000 personnes. L'idée, c'est vraiment d'essayer de développer ça et, comme je disais tout à l'heure, de scaler, de vraiment trouver, maintenant qu'on a compris que ça fonctionnait bien, bah, de se dire, il y a vraiment un gros truc à faire là et identifier quel est ce gros truc à faire. Okay. Je cherche encore. Je réfléchis.
Bon, dans tous les cas, de belles perspectives. Donc ça, c'est top. On va passer à l'autre partie du podcast, c'est les rencontres et l'entrepreneuriat en général. Est-ce que tu as des rencontres qui t'ont permis de franchir un cap dans ton business ? J'imagine du coup ton ancien collègue qui est arrivé chez Airbnb potentiellement. C'est...
Bah ouais, mais bon, ça a été pareil pour BNP Paribas. Bon, voilà, évidemment, tous les clients, je remercie pour tous ceux qui m'ont mis en contact parce qu'évidemment, ça nous a propulsés. Donc ça, c'est génial et merci pour le bouche à oreille qui, en fait, est très peu coûteux pour la personne qui le fait et en fait, rapporte énormément pour la personne qui en bénéficie. Donc, c'est génial et c'est pour ça que Loving is Sharing, c'est un bon motto et s'entraider, c'est tellement… ça rapporte tellement et ça coûte rien de le faire. Donc, c'est une bonne pratique. Et moi, je suis très dans le loving is sharing. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, les rencontres concrètes, je ne sais pas si vous voulez que je donne des noms.
Tu peux.
Je peux. Mais en fait, j'ai envie de remercier Fanny Pechioda hein, qui m'a énormément aidée dans la construction de ma stratégie. Fanny Pechioda, c'est la créatrice de My Little Paris. Et en fait, on s'est bien comprise parce qu'elle a le même background que moi. Elle vient d'une école de commerce et elle s'est positionnée sur donc voilà, cette création de My Little Paris qui vous envoie des newsletters lifestyle. Et je l'ai rencontrée et je l'ai vue une heure, mais elle m'a refondé ma stratégie. Elle m'a aidée à me positionner et à assumer ce que je faisais parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que je rencontre Fanny Pechioda, donc c'était en janvier ou février de cette année, je marchais un peu sur la pointe des pieds. Je ne savais pas vraiment comment me positionner. Je savais que je voulais faire des trucs sur l'expérience immersive, mais je n'osais pas trop parce que je me disais, je suis quand même une start-up. Peut-être que je devrais me positionner sur des low budget parce que peut-être que c'est ce qui manque, etc. Et en fait, Fanny m'a vraiment poussée en me disant « Mais non, enfin, évidemment que non, tu ne dois pas te positionner sur du low budget, ça ne sert à rien. Positionne-toi sur quelque chose d'extrêmement premium. Les gens vont s'arracher ta boîte, vont tout faire pour que tu fasses un événement pour eux et ils vont payer le prix pour ça. » Et donc, vraiment, pas du tout, quoi. Positionne-toi et assume le truc. Tu veux faire des expériences immersives pour les faire à fond. C'est hyper coûteux de faire ça, donc il faut le faire à fond. Donc là, ça m'a beaucoup aidée. Elle m'a aussi beaucoup aidée sur le fait que je disais « Oui, je ne sais pas trop comment me positionner parce que je viens du milieu du conseil en stratégie, je ne viens pas du sérail de l'événementiel, je ne sais pas comment positionner les deux. » Et donc, elle m'a aidée à me dire bah, « Voilà, fais du conseil en événementiel. » Enfin, ce qu'on s'est dit, donc, à donner un angle conseil en strat à l'événementiel et assume-le à 100% et dis-toi que comme tu fais ça, tu peux aussi t'adresser à du C-level, donc tout ce qui est COMEX, c'est ce qui te donne énormément d'ampleur aussi parce que aujourd'hui, souvent, les agences événementielles, elles vont s'adresser à la partie event, alors que peut-être, en fait, c'est des réflexions encore plus stratégiques que ça qui méritent de solliciter le COMEX. Donc, okay. Voilà, ça m'a beaucoup aidée. Donc, je la remercie. Il y a aussi Victor Luger, le fondateur de Big Mama. Moi, je suis une grande admiratrice de Big Mama. Je voulais monter un Big Mama, d'ailleurs, à l'époque. Et on m'a dit, tu es au courant que quand même, il faut pas mal d'invest. Puis Big Mama, c'est quand même l'exception. Voilà, bon, je me suis dit, OK. Et puis, c'est vrai que c'est contre mon idée de vouloir mettre 1 000 euros de capital social. Donc, et puis des investisseurs. Donc, je vais bifurquer. Mais j'ai quand même cet imaginaire de Big Mama et cette réussite de Big Mama. Moi, je suis vraiment passionnée par Big Mama parce que c'est beaucoup d'expérientiel. Et c'est aussi des gens aussi qui me ressemblent. Donc, ils venaient de la même école que moi et ils ont fondé une boîte dans un univers qu'ils ne connaissaient pas non plus, la restauration. On nous disait, oui, c'est les Auvergnats, la restauration. Personne ne réussira à percer la restauration. Voilà. Bon, bah, eux, ils ont réussi à le faire. Et puis, il y a ce côté aussi process. Nous, c'est quelque chose qui est très important chez FOMO. La réussite de Big Mama, elle est liée au fait qu'il y a des process pour tout. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'une boîte, à partir du moment où on veut qu'elle grossisse, il faut qu'il y ait des process, des bibles pour que n'importe qui arrive dans la boîte puisse les intégrer et prendre ce savoir. Bon, évidemment qu'il faut un peu de coaching, etc. Mais du coup, c'est quand même beaucoup plus simple que chacun qui fait à sa sauce et qui, du coup, ne génère pas un ADN commun. Et la force de Big Mama, c'est d'avoir réussi à générer un ADN commun alors qu'ils ont, je ne sais pas combien, 7, 8, je vais pas me tromper, mais plein de sites. Et en fait, quand vous entrez dans un Big Mama, c'est toujours la même expérience que vous vivez. Et donc, moi, c'est pareil. Moi, je veux scaler sur de l'humain et je veux prouver qu'on peut scaler même avec de l'humain et sans forcément faire de la tech. Après, c'est aussi un de nos objectifs, hein, de mettre de la tech, mais rien que sur l'humain, déjà, si on met des process pour tout, c'est déjà un bon départ.
Ok. Et en deuxième question, j'allais te poser, peux-tu me citer un ou deux entrepreneurs qui t'inspirent, mais du coup, qui a en fait quasiment répondu, hein.
Oui, bon, bah, ces deux personnes, c'est vrai qu'elles m'inspirent beaucoup et qu'elles m'ont beaucoup aidée. Y a aussi Comet Meetings qui a été fondée par trois personnes et ils m'inspirent beaucoup parce qu'en trois ans, ils sont 100 personnes. C'est pareil, c'est beaucoup d'humains, beaucoup de process. C'est des personnes aussi qui viennent du même environnement que moi et qui se sont tournées vers de l'événementiel. Donc, Comet Meetings, c'est la location d'espaces de réunion. Et c'est pareil, ils ont réussi à rendre l'expérience assez immersive. Et je trouve qu'on a le même objectif qui est on veut rendre le B2B un peu sexy. Moi, mon idée, c'est de me dire en fait, je veux faire du B2B un peu comme du B2C. Je veux que FOMO ou Velvet Cartel, ce soit le nouveau Burning Man, que les gens se disent je veux faire cette expérience, c'est un truc de dingue. Et en plus, ce qui est génial, c'est que c'est ma boîte qui budgète ce truc. C'est même pas, je sais pas, c'est pas à moi d'investir, c'est l'opportunité de dingue de faire un événement B2C ou vraiment un événement de waouh avec, avec le budget de ma boîte, quoi.
Mmh. Ok, super. Et troisième question, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui hésiteraient à se lancer ?
Bah, n'hésitez pas, il faut foncer, mais après, il faut avoir les épaules. Moi, je suis contente d'avoir fait tout ce processus qui a duré 6 à 8 mois. Qui était de me poser, de prendre du recul, de me demander ce qui vraiment me plaisait, de revenir à mes besoins fondamentaux. Parce que si vous vous lancez un peu au hasard en vous disant « Non, mais c'est bon, je sais que c'est bien de faire ci ou ça, je vais y arriver », en fait, vous n'allez pas forcément être aligné. En fait, un bon conseil, c'est quand même de se dire « Là, cette boîte, c'est quand même mon bébé, c'est le truc qui va me prendre le plus de temps au monde. » Donc, il vaut mieux être aligné. Et être aligné, ça veut dire… Est-ce que c'est les valeurs que je veux ? Est-ce que c'est l'ADN que je veux ? Est-ce que c'est le secteur qui me plaît ? Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Si vous avez une envie, il faut y aller. Parce que moi, j'avais l'envie, mais plein de fois, je me suis dit oh, « En fait, je crois que je n'ai pas l'âme d'entrepreneur, je n'ai pas les épaules pour, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. » Puis en plus, il y a plein de gens qui vont vous dire ça. Hein. Moi, mes parents me disaient, alors que ça faisait 18 ans, qu'ils me disaient « Il faut absolument que tu montes ta boîte. » Le jour où je leur ai dit « Je pars de Bain et je monte ma boîte », ils m'ont dit « Non, mais tu es complètement malade. » t'as pas du tout les épaules pour. Enfin, vraiment, ils m'ont tout cassé, quoi. Donc, il faut pas. Enfin, écoutez-vous, si vous avez envie de le faire, faut le faire. Mais effectivement, faut se donner les moyens d'y arriver. Et donc, faut faire les étapes de réflexion nécessaires pour pas se tromper. Je sais pas, moi, je suis pas mariée, mais j'imagine que c'est comme quand vous voulez vous marier, quoi. C'est sympa, c'est glitter et tout, mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment cette personne ? Et là, est-ce que c'est vraiment cette boîte ? Parce que ça va me prendre quand même quelques années.
C'est clair, c'est clair, c'est clair. On va passer à l'avant-dernière partie du podcast, des questions un peu rapides. La première question, c'est un livre à conseiller ?
Oui, un livre à conseiller. J'avoue que ces dernières années, je lis beaucoup de livres business. C'est pas très bien, mais enfin, c'est pas très bien. J'aimerais. Je suis cagneuse quand même d'origine, donc j'ai fait 3 ans de cagne. Du coup, je renie un peu mes origines. Mais du coup, il y a 2 livres que je vous conseille. Il y en a un qui est donc Business 4-Hour Week. C'est le livre qui a été écrit par Tim Ferriss. C'est un livre business. Et en fait, je ne vous recommande pas de le lire en entier, mais au moins de le lire en diagonale parce que ça va vous permettre de vous dire en fait, c'est quoi cette boîte-là qui peut faire que je bosse 4 heures dans ma semaine et que le reste du temps, je suis sur un hamac au bord de la plage. C'est ce qu'il dit. Alors, moi, je l'ai lu et je me suis dit, c'est embêtant parce que du coup, il dit qu'il faut faire une boîte scalable, une boîte tech et tout. Je ne veux pas faire ça, mais en revanche, ça m'a quand même permis de me dire, il y a des métiers qui sont vraiment plus durs que d'autres, quoi. Et notamment, monter un resto, franchement, c'est quand même très facing. Ça veut dire que tu dois être là tout le temps et tu ne peux pas être là au bord de ton hamac. Moi, avec l'agence que j'ai montée, bah, là, par exemple, je me dis que je vais aller au Costa Rica pendant 2 mois et faire du télétravail. C'est sympa quand même de se dire, on peut faire des trucs à distance. Donc ça, c'est un bon livre si vous voulez monter votre boîte pour avoir des notions de quand même les bonnes pratiques. Et sinon, bah, moi, mon livre que j'adore, hein, c'est Du côté de chez Swan de Marcel Proust. Mais bon, je suis cagneuse. Faut aimer le style de Marcel. Mais voilà, c'est avec la Madeleine. C'est là que moi, j'ai commencé. C'est quand j'étais petite, je l'ai lu. Et c'est là que j'ai compris ce que c'était que de ressentir des émotions, une expérience forte et qui vous marque. La première fois que j'ai mangé une madeleine, je me suis dit « Ah, mais je suis comme Marcel, moi aussi, je suis replongée chez ma tante Léonie. » Et bon, on m'a expliqué qu'il y avait une universalité dans la singularité de ce que je ressentais. Mais c'est là que je me suis dit « En fait, il y a des expériences qui peuvent être très, très denses. Si elles créent des émotions, elles vous marquent à vie. » Et c'est comme ça qu'a commencé mon amour des expériences.
Très bien. Du coup, deux dernières questions. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée ?
J'aurais peut-être aimé que tu... Ah, c'est difficile comme ça. Que tu me demandes quelles sont les spécificités de FOMO en termes de, d'ADN vraiment, d'organisation, de comment on fonctionne, de pourquoi ce serait différent d'une autre agence. Parce que je pense qu'on est très différents parce qu'on ne vient pas de l'événementiel et en ça... On est en rupture avec ce qui existe déjà. Et bon, c'est un peu ce dont je parlais avec les process, mais c'est aussi tout l'environnement que j'ai appris, hein, moi, de Bain, qui est, bah, en fait, on réfléchit un peu comme des consultants. Et non pas parce que les consultants, on dit souvent qu'ils sont un peu loin de la réalité et tout. Non, ce n'est pas ça qu'on prend des consultants. Ce qu'on prend des consultants, c'est la rigueur, l'exigence et le côté… On délivre quelque chose de très, de parfait, de ce qu'on appelle client-centric, qui est donc le client est roi et il reçoit quelque chose Bain-friendly. Et donc, ça veut dire que globalement, on essaye de faire en sorte qu'il n'ait rien à redire et qu'il soit plutôt épaté.
Okay.
Et je pense qu'il y a plein d'agences événementielles qui font ça à leur manière. Mais je pense que le côté conseil en strat aide à faire quelque chose d'un peu nouveau en événementiel.
Le petit plus qui fait la différence. Et donc, dernière question, quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode ?
Bah, très bonne question. Alors, moi, je vous recommande donc Comet Meetings, je vous en ai parlé et je trouve que Victor Caro, donc, qui est le CEO, a plein d'expériences à partager et ça vaut le coup de l'écouter. Une autre personne, c'est Rémi Lombard qui a créé À la Casa, qui est qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit que c'était un WhatsApp des voisins. En gros, l'idée, c'est de recréer des communautés entre voisins et puis entre quartiers, etc. Pourquoi je vous conseille Rémi ? Parce que Rémi, c'est un de mes mentors. C'est une personne avec qui je collabore depuis une dizaine d'années. On travaille beaucoup ensemble. On a cette même idée du « loving is sharing » et c'est surtout lui qui me l'a inculqué. Et voilà, je pense qu'il a aussi beaucoup de choses à transmettre.
Ok, super.
Bon, c'est des hommes. Hein. J'aimerais bien vous dire des femmes, mais… Malheureusement, il y a moins d'exemples. Hein.
Non, mais c'est sûr, ça va progresser dans les prochains mois. Dans les
prochaines
années.
On espère.
C'est clair. Mais écoute, Aurore, je te remercie pour cet échange.
Merci, François.
Et puis, à bientôt sur Serial Entrepreneur et puis sur FOMO. Enfin, du coup, votre nouveau nom, est-ce que tu peux le redire ?
Velvet Cartel, et ce sera velvetcartelagency.com.
Très bien, super. Merci beaucoup. Ciao.
Merci François, merci à tous.